VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Il est 19h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 10 avril 2017. En RDC, appel à manifester contre Joseph Kabila sans écho à Kinshasa. La population est terrée chez elle après l'interdiction de tout rassemblement. Au Tchad, une dizaine de membres de la société civile ont été arrêtés à N'Djamena en marge d'une manifestation contre le pouvoir. Au Soudan du Sud, au moins 16 morts dans des fusillades à Wao. Des miliciens de l'ethnie Dinka auraient fouillé des maisons cherchant des personnes d'autres ethnies. Et puis le G7 énergie, pas d'accord sur le changement climatique en raison des réserves des États-Unis. Et ne manquez pas dans cette édition votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco. Et nous ouvrons ce journal avec l'appel à la manifestation interdite contre Kabila qui n'a pas eu d'écho, en tout cas l'écho espéré à Kinshasa. On fait le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
On attendait une marche pacifique de l'opposition pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016, mais c'est plutôt à une journée ville morte qu'on a assisté dans presque tous les pays ce lundi 10 avril. À Kinshasa, plusieurs commerces sont restés fermés, la circulation très timide et le transport en commun beaucoup moins présent que d'habitude. À cela s'ajoute une présence aussi remarquable qu'importante de la police dans tous les points chauds de la capitale. À Bukavu au sud Kivu, la marche prévue par le rassemblement a été étouffée par la police, selon des responsables locaux de l'opposition, qui annoncent même 8 arrestations dans leur rang. Juste à côté, au nord Kivu, si la ville de Goma a tourné normalement, il n'en est pas le cas pour la ville de Beni où des manifestants ont été dispersés et quelques arrestations signalées. Paralysie des activités signalées également à Kananga dans le Kasaï central et à Mbujimayi au Kasaï oriental où les activités ont tourné au ralenti dans l'avant-midi. À Lubumbashi par contre, tout s'est déroulé normalement, mais le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les points chauds de la ville, notamment autour de la résidence de Gabriel Kyungu Akumwanza, le président du rassemblement dans les Haut-Katanga. Enfin, les activités commerciales ont tourné normalement au centre-ville de Matadi dans le Congo central, alors que dans la cité, précisément dans la commune de Mvundi, des accrochages ont eu lieu entre la police et des jeunes qui ont barricadé la route en brûlant des pneus. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Une dizaine de militants de la société civile tchadienne appartenant au mouvement IINA ont été arrêtés lundi à N'Djamena en marge d'une manifestation contre le pouvoir du président d'Idriss Déby Itno. C'est ce qu'on a appris de sources policières. Nous reviendrons sur cette manifestation dans la partie magazine. Et au moins 57 combattants de Boko Haram, dont un grand émir, ont été tués dimanche soir en cours de violents combats avec l'armée de Guesskerou dans le sud-est du Niger. L'identité de l'émir tué est en cours de vérification selon une source basée dans la région de Diffa. Le bilan des combats était impossible à confirmer lundi de sources indépendantes. Corruption au Nigeria, l'ONG Global Witness et Finance Uncovered ont publié lundi un rapport accablant contre les groupes pétroliers Eni et Shell, accusant ce dernier d'avoir su que l'argent versé pour l'acquisition d'un gros contrat pétrolier n'irait pas au gouvernement nigérian mais à des individus. Et puis en Guinée-Bissau, au moins 10 personnes ont péri lors d'un naufrage dans l'archipel des Bijagos. Une pirogue transportant 45 passagers a chaviré dimanche en raison du mauvais temps, a-t-on appris lundi auprès de la police maritime. 18 personnes ont été secourues, d'autres sont portées disparues et des recherches se poursuivent. On rapportait des témoins à Boubaké, la principale ville de cet archipel d'Afrique de l'Ouest qui compte 88 îles. Les étudiants des universités burundaises ont dénoncé lundi une tentative de politisation de leur mouvement de grève, lancé il y a 2 semaines pour protester contre la transformation de la bourse scolaire en prêt remboursable après les études. Les nouveaux entrants à l'université devront désormais rembourser l'argent avancé une fois leurs études terminées. Les conditions d'octroi posées par le nouveau décret deviennent aussi plus draconiennes. Une universitaire et activiste des droits de l'homme en Ouganda a été inculpée lundi par un tribunal tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le chef de l'État, Stella Nyanzi, 42 ans, est connue du public ougandais pour ses commentaires très crus postés sur les réseaux sociaux et visant nommément la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni. Elle a récemment multiplié ses attaques après que le gouvernement ait renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Et puis enfin, le président sud-africain Jacob Zuma a dénoncé lundi, à l'occasion d'un hommage à un héros de la lutte anti-apartheid, le caractère raciste des manifestations de grande ampleur qui réclamaient sa démission la semaine dernière dans les principales villes du pays. Vendredi, des dizaines de milliers de Sud-Africains de toutes confessions et cultures sont descendus dans les rues des principales villes du pays pour appeler Jacob Zuma à la démission. Et puis je vous le disais en titre, au Soudan du Sud, 16 personnes au moins ont été tuées aujourd'hui dans le nord-ouest du pays par des miliciens qui, selon des témoins, combattent du côté du gouvernement. L'armée dément toute implication. Jacques Aristide.
Les meurtres ont été perpétrés dans la localité de Wao, dont les rues étaient désertes ce lundi. Les habitants se terraient chez eux, d'après l'agence Reuters. Des soldats de l'armée sud-soudanaise bloquaient la route, menant un camp de civils protégé par des casques bleus. Des témoins affirment qu'il s'agit d'une opération de répression à caractère ethnique, soutenue par les éleveurs et des civils en armes de la tribu Dinka. Selon eux, des miliciens proches du gouvernement ont fouillé les maisons à la recherche de personnes appartenant à d'autres groupes ethniques. Le colonel Santo Domingue Chol, porte-parole de l'armée, a rejeté les allégations selon lesquelles l'État était impliqué dans les combats à Wao. Il parle plutôt de fusillades qui ont éclaté lors d'une mutinerie à la prison de la ville. Depuis 2013, plusieurs factions armées s'affrontent à travers le Soudan du Sud, plongé dans la guerre civile après le limogeage par le président Salva Kiir de l'ethnie des Dinka de son adjoint Riek Machar appartenant à l'ethnie des Nuer. Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois sur les risques de nettoyage ethnique dans le plus jeune pays du continent.
En Somalie, une attaque commise par un kamikaze portant un uniforme militaire a fait au moins 9 morts et des dizaines de blessés à Mogadiscio ce matin. L'attentat a aussitôt été revendiqué par le groupe islamiste Al-Shabaab. Abdourahman Dia.
L'attentat est survenu dans un camp d'entraînement de l'armée. Selon les autorités somaliennes, le kamikaze est entré dans le camp, tirant sur les soldats avant de faire sauter sa veste d'explosifs. Le bilan pourrait s'alourdir car certains blessés sont dans un état critique. Hier, Al-Shabaab a mené un attentat à la voiture piégée dans une autre base militaire dans la périphérie de Mogadiscio, faisant près de 15 morts. Le groupe a multiplié ses attaques depuis l'élection du nouveau président Mohamed Abdullahi et surtout depuis qu'il a déclaré l'état de guerre contre les islamistes. Le président Abdullahi a donné 60 jours aux membres d'Al-Shabaab pour qu'ils se rendent pour bénéficier d'une amnistie. Ce conflit a accentué la famine qui frappe le pays depuis l'an dernier à cause de la sécheresse. Selon les Nations Unies, plus de la moitié des 12 millions de Somaliens auront besoin d'une assistance humanitaire d'ici le mois de juillet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les ministres de l'énergie du G7 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration commune lors d'une réunion ce lundi à Rome en raison des réserves des États-Unis sur le changement climatique. On fait le point avec Solange Niamoulisa.
Les États-Unis ont indiqué réserver leur position sur les engagements du G7 lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat. Le ministre italien du développement économique Carlo Calenda a indiqué qu'il n'a pas été possible de signer une déclaration commune à cause des réserves des États-Unis qui sont en train de réexaminer leur position sur le dossier du changement climatique. Le président Donald Trump, qui avait vivement critiqué l'accord de Paris pendant sa campagne, prendra position d'ici fin mai sur cet accord signé fin 2015 par plus de 190 pays dont les États-Unis. Deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, les États-Unis ont joué un rôle central dans la signature de ces textes en concluant en amont un accord avec Pékin.
Alors les ministres des Affaires étrangères du G7 justement ont multiplié aussi les échanges en vue d'afficher leur unité pour une relance du processus politique en Syrie en tentant de faire pression sur la Russie. Avant la visite à Moscou du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, les relations se sont tendues entre les États-Unis qui ont appelé dimanche au départ du président syrien Bachar al-Assad et les alliés de Damas, en particulier la Russie et l'Iran, qui ont eux menacé Washington de réagir fermement à toute nouvelle agression contre la Syrie. Et toujours aux États-Unis, Donald Trump a célébré lundi sa plus belle réussite intérieure depuis le début de sa présidence en accueillant à la Maison-Blanche le juge Neil Gorsuch, dont la confirmation à la Cour suprême redonne le goût de la victoire aux républicains. Le magistrat de 49 ans a prêté serment dans la roseraie à l'extérieur du bureau ovale, sa dernière étape avant de siéger au temple du droit américain qu'il va faire pencher du côté conservateur. Et après l'attentat de Stockholm qui a fait quatre morts et 15 blessés, le ministre suédois de la Justice Morgan Johansson appelle de ses voeux à un renforcement de l'arsenal antiterroriste du pays scandinave. L'auteur présumé de l'attentat, un Ouzbek de 39 ans connu pour ses sympathies djihadistes sur les réseaux sociaux, était entré en clandestinité depuis plusieurs mois pour échapper à une reconduite à la frontière après le rejet de sa demande de permis de séjour. Et puis cette nouvelle, pour la cinquième fois depuis début avril, l'opposition au président socialiste Nicolas Maduro manifestait lundi à Caracas alors que les précédentes mobilisations ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les anti-chavistes commençaient à se rassembler en milieu de journée dans l'est de la capitale contrôlée par l'opposition. C'est la fin de cette page d'information. On se retrouve tout de suite après. Votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, est présenté cette semaine par Claire Morin-Gibourg.
L'homme d'affaires anglo-soudanais Mo Ibrahim a fustigé les complices de la corruption en Afrique, notamment français. L'ancien magnat des télécommunications s'exprimait à Marrakech en marge du forum organisé pour les 10 ans de sa fondation. « Nous ne voulons pas que la communauté internationale présente devant la justice les leaders africains corrompus. Nous voulons savoir où va l'argent de la corruption », a poursuivi Mo Ibrahim, dont la fortune est estimée à 1,1 milliard de dollars. L'Afrique du Sud va-t-elle devoir réexaminer ses projets de développement de son nucléaire civil en raison de l'abaissement de ses notes par Fitch et Standard & Poor's? C'est ce qu'a affirmé hier l'ANC, alors que la nation arc-en-ciel tente de se sortir de sa dépendance au charbon à 90%. La perspective d'une récession met à mal ses investissements dans le domaine nucléaire. Au Burkina, Telcel Faso va lancer son réseau 3G courant avril. Le troisième opérateur du pays espère ainsi rattraper son retard derrière Onatel et Orange. Le coût d'installation et du déploiement de cette technologie est estimé à plus de 34 milliards de francs CFA.
Et tout de suite la page des sports avec vous Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous.
Retour de la Ligue des Champions en Europe dès demain soir.
Oui, la Juventus de Turin, encore marquée par le souvenir douloureux de la finale perdue de 2015 contre Barcelone, a l'occasion de prendre sa revanche dès demain en quart de finale aller, tandis que Monaco voudra poursuivre sa belle épopée européenne face au mur jaune de Dortmund et de Pierre-Emerick Aubameyang.
Et après demain, un gros choc.
Bayern Munich-Real Madrid, c'est le choc évidemment de ce mercredi soir. Là encore, pour les quarts de finale, c'est la 23e rencontre en compétition européenne de clubs pour ces deux gros poids lourds du football européen. L'autre rencontre, Atlético Madrid-Leicester.
Tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe a pris le dessus sur la JS Kabylie.
Les Corbeaux se sont imposés 2-0 face aux Algériens. 2-0 au terme d'une belle entrée et d'une fin de match à couper le souffle, même si le verdict du match s'est écrit sur deux balles arrêtées. D'abord Nathan Sincala de la tête à la 12e minute et Salif Koulibaly du pied gauche à la 89e minute. Défaite en déplacement également pour le second représentant algérien, le MC Alger, qui s'est incliné à Dar es Salaam face aux Young Africans. Le score 1-0. Les Guinéens de Oroya ont battu les Marocains d'Itiyad de Tanger sur le score de 2-0. Le CF Mounana prend un petit avantage devant l'ASEC Mimosa, les Gabonais se sont imposés 2-1.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook a fait tomber l'un des plus vieux records de NBA avec son 42e triple-double de la saison à 4 minutes de la fin du match de son équipe qu'il a emporté 106 à 105 contre Denver. Westbrook est donc entré dans l'histoire puisqu'il a réussi sa 10e passe décisive après 10 points et 10 rebonds. Cette passe lui permet de battre le record du légendaire Oscar Robertson qui avait réussi 41 triple-doubles lors de la saison 61-62. Le grand rival de Westbrook, James Harden, a lui répondu avec son 21e triple-double de la saison lors de la victoire de Houston face à Sacramento 135 à 128. Cleveland n'est pas au mieux avant d'aborder les playoffs. Les Cavaliers se sont inclinés pour la deuxième fois en trois jours face à Atlanta 125 à 126. Pourtant, ils ont compté jusqu'à 26 points d'avance dans ce match.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Tatiana Mosso. Place à nos dossiers du jour et on prend la direction de l'Égypte. Retour sur les deux attentats contre des églises chrétiennes qui ont fait au moins 44 morts hier lors du dimanche des Rameaux dans les villes de Tanta et d'Alexandrie situées au nord du Caire. Suite à ce carnage revendiqué par l'organisation État islamique, l'état d'urgence a donc été décrété. Pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par les Coptes, Morgane Guiriec a joint Ahmed Beshemsi, directeur de communication pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch.
Il semble que l'État ne fait pas suffisamment pour protéger les Coptes contre cette menace terroriste qui est maintenant évidente. Daesh avait clairement déclaré qu'il était en guerre contre ce qu'ils appellent les infidèles, et donc en ce qui concerne l'Égypte, les Coptes. Il y a des inspections aux portes des églises et des cathédrales, mais enfin qui sont un petit peu hasardeuses, avec des détecteurs de métal qui ne fonctionnent pas, et des choses comme ça. Ce sont des citoyens de seconde classe. Quand ils veulent construire une église, il faut que c'est un parcours d'obstacles pour que l'administration égyptienne accorde cette autorisation. Les Coptes sont sujets aux lois de l'héritage islamique, alors que voilà, ils sont Coptes, donc ça n'a rien à voir. Ils ne peuvent pas adopter des enfants. Les lois contre le blasphème les visent, mais presque exclusivement. Il y a un très faible pourcentage de Coptes qui sont nommés à des positions officielles. Donc, en fait, les lois et le fonctionnement du système politique égyptien sont faits de manière à ce que les Coptes aient une discrimination très claire qui est contre eux.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence pour 3 mois. Cette mesure pourrait-elle permettre de mieux les protéger ?
Ah non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des choses exceptionnelles qui peuvent être faites de par l'état d'urgence sont déjà possibles aujourd'hui de par la loi antiterroriste. Les forces égyptiennes peuvent déjà arrêter sans ordre judiciaire, peuvent déjà espionner, mener des opérations de surveillance, envahir des maisons de suspects. Tout ça, c'est permis par l'état d'urgence, mais c'était déjà permis par la loi antiterroriste.
Ils font aussi l'objet d'agressions au quotidien, pas forcément venant d'organisations.
Il y a régulièrement aussi des attaques, des émeutes, des civils, des gens qui n'en font pas partie ni de l'état ni des groupes terroristes, attaquent des quartiers coptes parce qu'ils sont chauffés à blanc par des prédicateurs islamistes locaux, et puis ça se termine en émeute et il y a des gens qui sont morts. Je ne pense pas que des gens, des Égyptiens lambda, spontanément vont se mettre à attaquer des Coptes s'ils ne sont pas au moins incités à cela par des groupes islamistes ou religieux violents. Mais enfin, la menace est là, elle est multiforme, elle peut venir de l'armée ou de la police, comme ça arrive en 2011, elle peut venir de simples citoyens qui sont chauffés à blanc par des extrémistes, comme c'est arrivé souvent, et ça peut venir aussi de groupes terroristes. Dans tous les cas, les Coptes sont visés. L'État doit les défendre et il ne fait pas assez de choses pour ça.
C'était Ahmed Beshemsi, directeur de communication pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch. Et puis, il faut noter que le pape maintiendra son voyage en Égypte prévu fin avril après les attentats de dimanche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'insécurité dans le nord du Burkina Faso a motivé la fuite de nombreux travailleurs, parmi lesquels les enseignants sommés par les terroristes d'enseignants en arabe. À l'issue d'âpres négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, ces fonctionnaires ont accepté de revenir, mais sans avoir pour autant évacué la peur et toujours en pleine riposte des forces de l'ordre de sécurité burkinabé dans le nord du pays. Les détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Les menaces terroristes sur les enseignants contraints pour continuer leur travail à cours en arabe ont obligé les syndicats d'enseignants à soutenir leurs collègues qui fuient les zones à risque de peur de se faire tuer. Un état de stress et de peur permanente qui en rajoute à cette psychose dont il est difficile de se défaire, souligne cet enseignant et secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES, Anatole Zongo.
Parce que à partir du moment où des djihadistes, les terroristes peuvent déboucher d'un moment à un autre et mettre en exécution donc leur plan macabre. Ça fait que vraiment on est constamment sur le qui-vive. Dès qu'on voit quelqu'un qui est effectivement anti-urbané, on voit des gens qui effectivement ressemblent à des Touaregs, ça fait que c'est vraiment la peur au ventre. On a l'impression justement que c'est une zone un peu poreuse. Parce que chaque fois, ils quittent la partie malienne pour se retrouver dans nos frontières et ils agissent et ils repartent. Donc il va s'en dire qu'on ne peut pas avoir vraiment la tranquillité.
Le ministre en charge de l'éducation nationale était déjà monté au créneau en pleine tournée dans le Nord pour inciter les enseignants à retrouver les classes et à faire confiance au gouvernement. Une assurance réitérée par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, s'est voulu persuasif.
Vous aurez à le constater, peut-être que vous avez déjà commencé à le constater et au fil des semaines et des mois à venir, nous allons monter en puissance, non seulement au niveau des renseignements, mais aussi au niveau des moyens permettant aux forces de défense et de sécurité de continuer d'assumer leur mission de défense de notre territoire, de ses populations. Nous allons préférer laissez le terrain parler pour que vous-même vous soyez témoin.
De Kourfayel à Dori en passant par Diguel et Dibo, les enseignants retrouvent donc leur classe rassurés par les autorités, même si la peur reste permanente, rappelle Anatole Zongo.
Il faut dire qu'avec les mesures prises par le gouvernement, peut-être que les choses vont un peu s'arranger. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y aura donc une patrouille à tout moment. Il nous est difficile de dire que les uns et les autres se sentent complètement et sécurisé, rassuré, mais on peut dire que l'État, en tout cas, a fait des efforts. Au regard donc de ces efforts qui ont été consentis par l'État, eh bien, je crois que c'est ça qui a prévalu à ce que donc les gens rejoignent le poste.
Des rares enseignants rencontrés sur leurs préparatifs de retour, aucun n'a voulu s'exprimer, mais ont tous laissé percevoir encore quelques craintes. Ces enseignants retrouvent leur classe, conscients que plus rien ne sera comme avant pour encore un certain temps. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Au Tchad, ce lundi matin, c'était la journée Iyina en arabe local qui signifie « Nous sommes fatigués », initiée par le mouvement citoyen du même nom pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l'insécurité. Donc cette manifestation a été réprimée par la police. Cette journée consistait à porter des habits rouges et des bandeaux. Le porte-parole du mouvement Iyina est en prison et du moins retenu depuis le 6 avril dernier dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité. On fait le point avec André Kodmajingar.
Habillés tous en rouge pour protester contre la marginalisation de la jeunesse, la prise en otage des citoyens par l'Agence nationale de sécurité, ces jeunes ont tenté de se regrouper à la Bourse du Travail. C'est de là qu'ils ont été surpris par les éléments de la police et de la gendarmerie nationale. 12 manifestants sont arrêtés et gardés au commissariat central de la ville de N'Djamena en attendant la décision des hautes autorités. Dobien Asingar, délégué permanent de la FITH auprès de la CEMAC, dénonce le comportement des agents de sécurité.
J'ai un sentiment de honte pour mon pays. Est-ce que vous pouvez concevoir que pour une simple manifestation où les gens sont simplement habillés en rouge, où les personnes qui ont porté ces habits-là sont mis dans un enclos de la Bourse du Travail. En quoi ça menace la République? De toutes les manières, nous sommes en train vraiment de saisir maintenant l'extérieur parce que trop c'est trop.
Tobien Asingar interpelle par ailleurs le président de la République par rapport aux agissements des agents de l'ANS. Car, dit-il, Idriss Déby Itno a prêté serment pour assurer la sécurité de tous les Tchadiens.
On a comme l'impression que le président de la République laisse faire. Disons les choses clairement. C'est comme si lui-même a donné ce permis d'arrêter, de séquestrer de faire disparaître les gens et de violer les droits des citoyens. C'est dommage, mais il est encore le président de la République des Tchadiens. Il a le devoir de les protéger parce qu'il ne doit pas oublier qu'il a prêté serment.
Si la journée de protestation de ce lundi a été étouffée par les forces de l'ordre, ce n'est pas pour autant dire que les organisations de jeunes vont désarmer. Déjà, le coordonnateur du collectif Ça doit changer, Boundary Declador, annonce sa couleur.
Le Tchad est un pays où il y a un délestage de l'état de droit. Nous, au niveau de Ça doit changer, nous aussi, nous lançons déjà un appel au deuil national qui est prévisiblement pour le 15 avril. Donc, dès lors que nos collègues de mouvement IA ne sont pas libérés, dès lors que l'État ne prend pas une initiative pour se prononcer sur la question de l'emploi, nous n'allons pas reculer. Donc, s'ils veulent arrêter, mais ils n'ont qu'à construire d'autres prisons. Donc, nous appelons la population à se mobiliser pour le deuil national. Il faut que la population porte le noir le 15 avril pour exprimer le deuil de la jeunesse contre l'arrestation, l'intimidation et séquestration de la jeunesse.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est un vieux projet que les Brazzavillois et les Kinois attendent depuis très longtemps, c'est d'être reliés par un pont. En 1971, les présidents Mobutu Sese Seko du Zaïre et Marianne Gwabi du Congo avaient organisé une rencontre au beau milieu du fleuve Congo sur un bateau pour évoquer cette question. Mais plus de 45 ans après, la traversée se fait toujours par bateau ou par pirogue de fortune. Notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngosu, nous en dit plus.
C'est un vieux projet. En 1971, on avait fermement cru en sa réalisation lorsque les présidents Mobutu Sese Seko de la République du Zaïre et Marianne Gwabi de la République populaire du Congo avaient eu une spectaculaire rencontre en plein fleuve Congo à ce sujet. Mais 45 ans après, la traversée sous le fleuve se fait toujours par bateau. Les populations des deux capitales les plus rapprochées au monde n'ont jamais cessé de rêver de ce pont route rail.
Évidemment, vu qu'il y a échange économique de part et d'autre, et si le temps est raccourci, les difficultés de circulation sont également améliorées avec le pont, ben ce sera une bonne chose. Mais cette fois-ci, ça sera des camions. Rapidement, en 3, 4, 5 minutes, c'est fait.
Il y a trop de tracasseries en matière de formalité. Il est arrivé plusieurs fois que des bateaux se soient renversés et que les gilets de sauvetage ne sont pas appropriés et tout le monde ne sait pas nager. Je pense que la route aura l'avantage de pallier à cet aspect de retard. Mais en plus, s'il y a les rails, ça veut dire qu'il y aura aussi l'écoulement des marchandises plus facilement.
Il faut s'ouvrir. Nous sommes à l'Union africaine, nous sommes à la CEMAC, nous sommes à la CAC, et l'un des volets retenus dans l'intégration, c'est d'ouvrir les voies pour relier tous ces pays. Je suis heureux qu'aujourd'hui, nous ayons possibilité d'être reliés au Gabon. Ça n'a pas entraîné un afflux.
Dans certains milieux puristes et conservateurs à Brazzaville, on pense que ce pont route rail sera l'occasion de se faire envahir par les Kinois qui sont déjà très nombreux sur la rive droite du fleuve. Mais Klesh Atipo, le premier secrétaire de la mairie de Brazzaville, croit plutôt au profit que tireront les deux villes de cet ouvrage.
Et pendant un moment, on se dit, bon, ils sont plus nombreux puisque nous à 1 500 et eux à plus de 7 millions. Mais l'afflux, tant que ça ne fait pas mal, tant que ça peut arranger les deux peuples, je pense que c'est une bonne affaire.
Alphonse Ndongo, un économiste, explique d'ailleurs que Brazzaville s'en tirera bien face à un marché très dollarisé à Kinshasa.
Le Congo est le point de passage, n'est-ce pas, pour les autres pays de la zone CEMAC, pour la RDC. Donc ça, ils sont à la recherche des devises en francs CFA. Mais nous aussi, il faut le reconnaître que l'économie de Kinshasa est une économie dollarisée. Donc c'est quelque chose qui éventuellement aussi peut nous faire entrer des devises, parce que c'est pas, les échanges ne vont pas s'effectuer en francs congolais ou en francs burundais, n'est-ce pas. Si, nos économistes et ceux qui ont en charge la faisabilité de ce projet examinent les choses de fond en comble. C'est pour nous une meilleure ressource aussi.
Il faut de la patience, car la volonté politique de Brazzaville et de Kinshasa compte dans la réalisation de ce projet Route Rail. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, qui se réunit en mai prochain, examinera le budget des 51 milliards prévus pour les débuts des travaux de l'ouvrage. Au bord du fleuve Congo, Nguela Ngoussou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde Lionel Gaïma et à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour toute l'actualité 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.